J'aimerais vous emmener ce matin dans le livre de Zacharie, au chapitre 8. Et avant de lire quelques versets qui occuperont notre méditation, j'aimerais juste apporter quelques brefs repères et rappels historiques pour poser le cadre dans lequel Zacharie a pris la parole. Vous vous souvenez, Jérusalem a été détruite en 587. Et après 70 ans de captivité à Babylone, en 538, l'édit de Cyrus, qui est donc le roi perse de l'époque, permet aux exilés juifs qui avaient donc été déportés de rentrer en Juda. Et là, les travaux de reconstruction de la muraille et du temple de Jérusalem débutent dès 537, c'est-à-dire une année plus tard. Et je vous renvoie, si vous avez envie d'en savoir plus, au livre d'Esdras et de Néhémie. Et puis une année plus tard, ce sont les fondations du nouveau temple, puisqu'il avait été rasé, qui sont posées. Et puis, badaboum, patatras, alors que le chantier n'en est qu'à ses débuts, les populations voisines qui entourent Jérusalem découragent les bâtisseurs par leurs moqueries, par leur mépris et leurs attaques, et suscitent une telle opposition que les Juifs vont finir par craquer et arrêter la reconstruction du temple. Chantier en panne, et pas simplement pour une année, mais pour 16 ans. 16 ans sans un coup de pioche. Alors vous voyez, une fois qu'on a passé 80 ans en exil, on revient, on est plein d'élan, on espère que ça va repartir, et puis, paf, ça s'arrête à nouveau. Et au début de ce chapitre 8 de Zacharie, Dieu va déclarer sa flamme pour Israël, ce peuple qui a par ailleurs été si décevant et puis aussi si prompt au découragement devant les attaques. Écoutez ces mots à la fois si improbables et merveilleux, verset 2, « J'éprouve pour Sion un amour ardent et passionné. Oui, je brûle pour elle d'une violente passion. » Un Dieu donc chaud bouillant, amoureux fou comme au premier jour, malgré des années et même des siècles de déception. Et Dieu invitait son peuple à prendre courage en s'appuyant sur lui et sur ses promesses. Verset 6, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Si ceux qui restent de ce peuple pensent que c'est trop extraordinaire pour moi, dois-je moi aussi l'estimer impossible ?» Verset 7, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. « Oui, je vais sauver mon peuple. Je les ramènerai et ils habiteront dans Jérusalem. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. La fidélité et la justice régneront. » Après donc ce bouleversant appel à la confiance et à la foi, Dieu va redonner à Israël sa feuille de route, ce qu'il est en droit d'attendre de son peuple, alors qu'il lui redéclare sa flamme. Oui, j'ai enlevé ça, c'est pas bien. Et donc, je vous invite à lire avec moi à partir du verset 16, et je lis dans la version du Semeur. Donc, chapitre 8, verset 16, « Voici ce que vous devez faire. » Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux, une justice qui engendre la paix. Ne tramez pas du mal l'un contre l'autre dans votre cœur et ayez en horreur les faux serments. Car toutes ces choses, je les déteste. L'Éternel le déclare. Le Seigneur des armées célestes m'adressa la parole en disant « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois seront changés pour le peuple de Juda en jours de réjouissance, en jours d'allégresse et de joyeuses fêtes. Mais soyez épris de vérité et de paix. » Jusque-là, pour l'instant, notre lecture. Donc vous l'avez vu, il y a une progression sur ce chemin de la vérité. Chacun doit dire la vérité à son prochain. C'est un verset d'ailleurs que Paul reprendra dans son épître aux Éphésiens au chapitre 4. Puis donc il est question de rendre cette justice conforme à la vérité. Et puis ce qui est le contraire, avoir en horreur les faux serments, mais toujours dans ce souci de la vérité. Et puis enfin au verset 20, ce magnifique mot d'ordre qui récapitule l'exhortation de Dieu, « Soyez épris de vérité et de paix ». Alors je vous propose juste un petit exemple pris dans le quotidien pour essayer de toucher du doigt cette difficulté à articuler vérité et paix. Nous connaissons tous, à un moment ou un autre, ces frustrations où nous n'arrivons pas à exprimer ce qui nous tient à cœur. Que ce soit dans le fil d'une discussion ou même d'une réunion. Une fois l'entretien ou la rencontre terminée, il y a cette espèce de goût d'inachevé. Et je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais sur le chemin du retour, je refais seul au volant toute la conversation, ce que j'aurais aimé dire, ces phrases qui ne me sont pas venues à temps, ou ces réponses qui n'ont pas trouvé les bons mots, ou ces vérités de l'autre qui continuent à travailler en moi. Non mais t'as vu ce qu'il m'a dit ? Avec parfois ces sentiments de tristesse, d'incompréhension, voire même de colère. Et puis quand les pensées tournent en boucle, malgré les jours qui passent, je finis quand même par écrire un mail pour essayer de dire ce que j'ai sur le cœur ou pour essayer de fixer, préciser la pensée. Ça sort, et puis ce qui devait être un pas vers la vérité, un pas vers la relation, devient parfois un pas vers la tension. Ça devient compliqué parce que l'autre le prend mal, parce que c'est peut-être aussi mal dit ou mal reçu, parce que ça réveille de vieilles blessures en lui ou en elle, ou au contraire parce que ce sont mes vieilles blessures qui parlent, et non plus ce qui fait l'aujourd'hui de notre relation. Bref, quand la tension grimpe, je finis, au bout de quelques temps, par m'excuser d'avoir dit ce que je pensais, et puis je suis en colère contre moi-même, pris en tenaille entre la culpabilité d'avoir déstabilisé ou blessé l'autre, et puis la colère d'être en train de regretter d'avoir dit ce que j'avais enfin trouvé la force d'exprimer vraiment. Et je finis à genoux, à gémir devant mon Dieu, à ne plus savoir quoi faire, quoi dire, quoi être. Oui, vraiment, Seigneur, prends pitié de moi. Oui, vraiment, quel bazar d'essayer d'être en vérité avec son prochain. À l'évidence, ce n'est pas toujours source de paix. Alors oui, la vérité, nous y croyons tous sur le papier, mais à force de s'y être risqués, nous y allons peut-être avec des pincettes, ou la plupart du temps, peut-être, nous n'y allons pas ou plus. Attention, terrain miné, trop dangereux, trop douloureux, peur d'essuyer peut-être un nouveau refus, une nouvelle incompréhension, un rejet, peur de m'entendre dire que l'autre est déçu par la vérité que je lui confesse, peur d'être jugé, peur d'être vulnérable, peur d'avoir encore mal ou même de faire mal, peur, 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 partout la trouille. À force de vivre toutes ces expériences, on apprend insensiblement à vivre loin de soi, de son cœur, de ses émotions, de ses réflexions. On finit petit à petit par s'absenter de ces rapports humains vrais. Et la relation devient sans consistance parce que plus rien de soi n'y a le droit de parler vrai, de vivre vrai, d'éprouver vrai. Et c'est le chemin tout tracé pour la double vie, nous allons y revenir dans quelques instants. Pourtant, Zacharie nous exhorte avec force de la part de l'Éternel, « Soyez épris de vérité et de paix ». Alors creusons un peu plus loin dans ce tandem de la vérité et de la paix et réfléchissons à pourquoi Dieu les associe l'un à l'autre. Et imaginons quelques instants ce que serait l'une sans l'autre. La vérité sans effort pour la paix, c'est la confrontation fratricide des vérités, les unes contre les autres. Le refus de l'autre, qui finit tôt ou tard par conduire à la violence et détruire la paix. C'est ta vérité contre la mienne. Ou tu te plies à ce que je pense et à ce que je suis, ou je te fais la guerre. C'est la fin de la paix parce qu'il n'y a plus d'amour, plus de communion, plus de communauté qui puisse unir ces vérités relatives d'hommes et femmes incomplets, partiels, subjectifs, dans une même quête d'une vérité supérieure, celle de Dieu déjà, et celle de la communauté que nous formons ensemble, à laquelle justement Dieu nous appelle, où demeure fondamentale la prise en compte de ce que l'autre est, de ce que l'autre pense, de ce que l'autre ressent. Dans le même sens, il y a la paix crispée sur sa seule vérité, la paix qui ne supporte pas d'autres vérités, de peur qu'elles ne viennent perturber les convictions, les certitudes, peut-être parfois les illusions, tout simplement remettre en question. C'est la paix du « fiche-moi la paix ». Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas. Parfois, notre quête de la vérité et de la paix se limite à cela. Chacun chez soi et tout ira bien. Viens pas bousculer ma vérité et fous-moi la paix. Et appelons un chat, ça ne s'appelle pas la paix. C'est la rupture de la communion, de l'amour, de l'effort vers l'autre. C'est du repli sur soi. De l'autre côté du balancier, c'est cette paix chewing-gum, le consensus mou, où à force de chercher l'équilibre, l'harmonie, on n'aborde plus rien de réel et de vrai. Par peur de faire des vagues, on ne se dit plus les choses, on ne s'écoute plus, et on se glisse douillettement dans le jeu des apparences, des silences, des fuites, des non-dits et des hypocrisies en tout genre. Et quelle tristesse et quel ennui que cette paix insipide et morte, sans contact, sans confrontation, sans différence. Oui, Zacharie vit juste et l'Éternel derrière lui, il y a bien un défi à tenir ensemble vérité et paix. Et la vie des groupes est sujette à toutes ces tentations que nous venons d'évoquer. La parole cherche souvent son chemin entre deux écueils, une paix consensuelle où les vérités risquent de ne plus sortir par peur de désorganiser l'harmonie de la communauté ou dans l'excès contraire et symétrique, des vérités qui fusent mais qui conduisent au conflit en oubliant l'objectif de l'unité et de la paix. À tous les échelons de la vie d'Église, que ce soit dans un entretien individuel, que ce soit lors d'une rencontre de responsables, de conseils, ou même à l'échelle de ce précieux moment de nos vies communautaires que sont les assemblées générales, cherchons ce dialogue en paix et en vérité. Que Dieu nous fasse la grâce de vérifier que nous ne sacrifions pas la paix sur l'autel de la vérité ou la vérité sur l'autel de la paix. Mais je vous ai parlé tout à l'heure d'un risque, celui de la double vie. Et il me semble qu'il y a une double vérité à chercher pour nous, enfants de Dieu. Il me semble que l'enjeu de la vérité est d'autant plus difficile pour une communauté chrétienne que nous sommes confrontés à un double objectif de vérité. Tendre vers le Christ, le suivre, lui qui s'est dit chemin, vérité, vie, avec tout ce que ça implique d'exigence dans le processus du renouvellement et de la sanctification. Et puis de l'autre côté, épouser la vérité de ce que nous sommes vraiment. Apprendre à s'accueillir tel que l'on est, comme il nous faut apprendre à accueillir l'autre pour ce qu'il est aujourd'hui. Et remarquez que ce sont deux énergies difficiles à articuler, à concilier l'une avec l'autre. Tension vers un objectif de sainteté, à ne jamais lâcher. Christ, la vérité d'un côté. Et de l'autre, consentement au réel. Offrir au Christ et à l'Église l'homme et la femme que je suis aujourd'hui, en vérité, sans fard, maquillage ou faux semblant. D'un côté, appelé à me battre de toutes mes forces pour changer. Et puis de l'autre, faire face à ce que je suis. Faire corps. Accepter l'homme que je suis aujourd'hui devant Dieu. Non pas pour en rester là, bien sûr, mais en affirmant que c'est bien sur la base de cette vérité que la rencontre et le contact avec le Christ et avec les autres sont possibles. Être un, en vérité, c'est à la fois être celui ou celle qui aspire à la vie de Dieu et celui ou celle qui n'y est pas encore et qui, dans cette même vérité, doit le reconnaître devant ses frères et devant le Christ. Debout face à mes faiblesses et debout face à l'espérance de changement et de progrès qui est en Christ. Et ne pas travailler simultanément dans ces deux directions risque de nous faire déraper dans cette quête de la vérité. Et la tentation est grande. Nous n'avançons les uns avec les autres et avec Dieu qu'à partir de là où nous en sommes et pas à partir de là où nous rêverions d'être ou à partir de ce que nous penserions que nous devrions être. Tant que l'on ne peut pas confesser en toute liberté cette faiblesse, ces échecs, il est impossible d'expérimenter la grâce d'être un être humain complet qui rencontre le Christ. Et le risque ici, c'est bien cette double vie que j'évoquais tout à l'heure. Si être chrétien, c'est ressembler au Christ, je vais être tenté d'enfouir dans le déni, plus ou moins conscient, tout ce qui ne ressemble pas au Christ en moi. Petit à petit se construit le faux moi, cette personne acceptable et religieuse, compatible avec les valeurs chrétiennes, avec ce que l'on est normalement en droit d'attendre d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne dans l'Église. Mais plus j'avance dans cette direction, plus le faux moi, acceptable, tremble à l'idée de dire ce qui se passe véritablement en moi. La peur profonde qui agite ceux qui sont pris dans ce piège du faux moi, nous pourrions la résumer dans ces mots « Si tu me connaissais vraiment, Seigneur, ou si tu me connaissais vraiment, toi, mon frère, ou toi, ma sœur, tel que je suis, tu ne m'aimerais plus. Si seulement tu me découvrais dans mes luttes et mes échecs, tu me rejetterais. » Et c'est ainsi que ce moi idéalisé, qui essaye pathétiquement de suivre et de ressembler au Christ, risque petit à petit de délaisser dans l'ombre ces domaines plus sombres de ma vie. Alors ce n'est plus une personne qui marche patiemment à la suite du Christ, mais deux. Deux parties de moi-même écartelées et parfois sans dialogue l'une avec l'autre. D'un côté, cet homme, cette femme, sincèrement épris, passionné du Christ, et puis de l'autre, le pauvre type, avec ses casseroles. Et à mesure que le temps passe, ces deux-là ne se rencontrent plus. Je vous cite ici un témoignage qui m'a touché dans ce sens. Cet homme écrit « J'aime ces moments où je peux pleurer, pendant lesquels je suis en contact avec cette partie plus fragile et douloureuse de moi-même, non pas que j'aime me regarder le nombril, mais parce que dans ces moments-là, je me sens vivre en entier. Je ne suis plus trois quarts de moi, mais
presque un. C'est là qu'est la vie, et c'est là que le Seigneur me conduit, être un en lui. Fin de citation. Oui, c'est bien au prix de ses larmes, enfin versées sur soi, que meurt l'idole du faux moi, du bon chrétien propre sur lui, et que se refait l'unité dans la vérité, préalable à tout chemin de sanctification et de guérison à la suite du Christ. Et nous luttons souvent avec cette tension qui est falsification de l'Évangile, de croire que le péché, en Jésus-Christ, je souligne, pourrait nous séparer de Dieu et de la rencontre avec le Christ. C'était là le contresens des pharisiens contre lesquels Jésus a dû se battre avec tant de vigueur. Tellement concentré sur cette exigence de sainteté, de ce que Dieu attendait, qu'ils en refusaient l'accès au Christ et au royaume, aux prostituées, aux escrocs, à tous les gens de mauvaise vie et finalement à eux-mêmes. Laisserons-nous entrer ce peuple pour cheminer avec nous vers la vie du Christ ? Laisserons-nous entrer ces parts de nous-mêmes plus obscures pour qu'elles aussi rencontrent le Christ ? Oui, parfois les autres, mes parents, ma communauté, mes frères et sœurs en Christ, attendent tellement que je sois cette personne sainte selon Dieu qu'il faut des forces surhumaines pour oser les décevoir. Là où ils attendent le bon chrétien, il se peut que je n'ai peut-être à leur offrir que l'expérience douloureuse de la vérité, de ma faiblesse ou de mon brisement. Mais comment leur dire ? Comment se le dire ? Sommes-nous prêts à écouter cette vérité ? Sommes-nous prêts à dire que même si cette vérité va produire des désillusions, des déceptions, des peurs, nous préférons ce visage de la vérité plutôt que celui de l'hypocrisie, de la double vie, des faux-semblants religieux ? Oui, ce n'est pas facile de faire face à son désordre, à sa propre confusion, comme ce n'est pas facile de faire face au désordre et à la confusion de l'autre quand on les découvre. Mais nous tous, parents, amis, frères et sœurs, accompagnateurs, sommes-nous résolus à faire de cette vérité aussi l'enjeu de l'Église et de notre rencontre avec le Christ ? Sommes-nous conscients de tout ce que nous mettons parfois en place pour refouler ce qui nous gêne, pour faire taire et anéantir ce que nous ne maîtrisons pas, pour repousser tout ce que nous ne voulons pas écouter de nous-mêmes et des autres dans les marges de nos vies? Oui, c'est vrai, ça déstabilise profondément nos sécurités, mais ce qui est mis aux marges par notre raison ou par nos sentiments, n'est-ce pas ce qui, une fois accueilli, pourrait aussi donner naissance à l'Évangile dans toute sa puissance de grâce et de restauration? Comment repérer cette tentation toujours forte en nous de mettre hors de l'homme ce qui habite l'homme, ce que réellement il est? Écoutez, cette part, c'est à la fois, oui, c'est vrai, ce qui nous déconstruit, ce qui nous humilie, ce qui peut nous meurtrir, même peut-être parfois nous anéantir. Mais n'est-ce pas cela, l'Évangile ? C'est peut-être dans cette vulnérabilité profonde que nous touchons à la plus grande vérité de nous-mêmes, et c'est bien là qu'est le lieu de l'Église. Là qu'il s'agit d'apprendre à se tenir debout, en présence les uns des autres, en communion les uns avec les autres, parce que nous sommes tous pauvres ensemble, en vérité devant Dieu, pour lui offrir cette pauvreté-là, celle qu'il est venu rencontrer, écouter, toucher, guérir, sauver, pour que ces parties de nous-mêmes ne soient plus mortelles, pour qu'elles ne nous enferment plus dans la solitude ou l'exclusion. Il s'agit bien de commencer à les accueillir, patiemment les apprivoiser en soi, pour patiemment peut-être aider un jour d'autres à les élaborer dans des mots, dans une présence, dans une dimension de vie et d'espérance, et non plus de peur, de violence, de rejet ou de mort. Si cette vérité ne parvient pas à la lumière, et là il faudrait réfléchir aux différents cercles dans lesquels c'est possible, mais elle ne sera jamais évangélisée, jamais apaisée, jamais sanctifiée. Elle restera comme ce caillou noir et dur au fond de nous-mêmes. Dans la vérité à laquelle nous appelle le Christ, tout, je dis bien tout, devrait pouvoir venir au jour. Chacun, chacune, devrait pouvoir habiter cette part de lui-même dont il craignait peut-être la folie ou le chaos. Il faut quelqu'un pour écouter. Pasteurs et ministères d'accompagnateurs sont donnés à l'Église pour cela. Mais je le crois profondément, l'écoute donne à celui qui écoutait le pouvoir de s'accueillir lui-même et de se présenter au Christ. Elle donne le droit de pouvoir en être là, en entier et sans crainte devant lui, dans la foi qu'il sait, lui, faire quelque chose de cette vérité. Parce qu'il est notre paix, nous l'avons déjà dit ce matin. Oui, le Christ s'est offert pour que le péché des hommes ne les sépare plus de Dieu, mais trouve en lui pardon et ouvre à des chemins de réconciliation et de vie. Quelle grâce de savoir que ce lieu de notre étrangeté, ou peut-être même de notre plus grande faiblesse, n'est plus seulement le lieu de notre solitude, de notre exclusion, mais un lieu de paix, le lieu d'une relation, d'une rencontre, où petit à petit nous allons nous laisser regarder, toucher, guérir par le Christ. Plus encore, nous l'avons lu au verset 19, cette vérité qui a pu être douloureuse peut devenir une fête, comme ces jeunes dont parlait Zacharie au verset 19. Ces temps de repentance où le peuple faisait amèrement mémoire de son péché, ces jours-là vont être changés en jours de réjouissance, en jours d'allégresse et de joyeuses fêtes, parce que Dieu sauve et pardonne celui qui se repent. Le Christ, c'en est fait le prophète, en lui la pauvreté n'est plus une honte, mais une fête. La vérité vous rendra libre. Nous y croyons ? Cet évangile n'est pas seulement déterminant pour le peuple de Dieu, il est aussi pour ce monde, et c'est sur cette dimension que j'aimerais m'arrêter maintenant, dans une seconde partie qui, rassurez-vous, sera plus courte. Je lis avec vous les versets 20 à 23. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Des peuples et les habitants de villes nombreuses vont encore venir. Les habitants d'une ville iront dans une autre et s'inviteront en disant « Allons, mettons-nous en route pour implorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et pour rechercher sa présence. » Et on leur répondra « Oui, moi aussi, je veux y aller. » Ainsi, des peuples nombreux et des nations puissantes viendront rechercher la présence du Seigneur des armées célestes à Jérusalem et l'implorer. Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. « En ce temps-là, des hommes de 10 nations parlant différentes langues s'accrocheront à un juif par le pan de son vêtement en déclarant « Nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » C'est donc sur la base de cette vérité et de cette paix retrouvée que Zacharie nous annonce une dynamique incroyable qui va se mettre en route, comme une traînée de poudre qui va enflammer le monde. C'est une Pentecôte avant l'heure. L'ouverture des privilèges du peuple d'Israël à l'ensemble des nations. Quel bouleversement! Et Zacharie nous décrit cet esprit de ferveur qui s'empare de ces peuples païens. Les habitants d'une ville iront dans une autre en disant « Allons essayer d'apaiser le Seigneur et rechercher sa présence. » Et ça marche. Une à une, ces villes, ces nations s'écrient « Oui, moi aussi, je veux y aller !» Au verset 22, des peuples affluent de toutes parts vers Jérusalem. Et notez-le, c'est le mouvement inverse de l'exil. Ce ne sont plus les Israélites qui, sous la pression de leurs ennemis, sont contraints à la déportation vers les grandes puissances de l'époque, d'abord la Syrie au 8e siècle et puis Babylone au 6e siècle. Mais c'est le contraire. Ce sont ces mêmes nations puissantes qui prennent leur place dans le cortège des adorateurs et qui se mettent à la suite de ce tout petit reste insignifiant du peuple juif pour affluer ensemble à Jérusalem. Ce sont les instruments mêmes de la débâcle d'Israël qui viennent et qui s'accrochent à leur tunique de leurs anciens prisonniers pour se laisser conduire, instruire par eux. Ce sont les puissants d'hier qui se font humbles pour apprendre de ceux qu'ils méprisaient, de ceux qu'ils déportaient, de ceux qu'ils persécutaient et humiliaient. Quel renversement incroyable! Et encore au verset 23, ce pourcentage qui ferait pâlir les meilleurs évangélistes, les meilleurs stratèges en implantation et en multiplication d'églises. Ce n'est pas une pour 10 000, c'est 10 pour 1. Qui dit mieux? 10 hommes de toute langue. Chiffre symbolique pour dire cette multitude du monde qui demande à Israël de partager la gloire de son héritage, la connaissance de Dieu. Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est tellement évident que Dieu est à l'œuvre. Imaginez une communauté éprise de vérité et de paix. C'est la grâce et l'action de Dieu. Des habitants nombreux qui sortent de chez eux pour inviter les villes voisines à chercher Dieu avec eux. Oui, c'est encore la grâce et l'action de Dieu. Des nations étrangères qui se faisaient la guerre et qui n'ont plus peur les unes des autres. C'est la grâce et l'action de Dieu. Des puissants qui se soumettent à des faibles. C'est la grâce et l'action de Dieu. Des anciens ennemis qui humblement apprennent les uns des autres pour servir et adorer le même Dieu. C'est la grâce et l'action de Dieu. Quelle vision rafraîchissante de l'évangélisation du monde! Si les Juifs de l'époque de Zacharie dépendaient encore du système du sacrifice et du temple pour implorer Dieu, ce que la NBS traduit plus littéralement par « essayer d'apaiser le Seigneur », nous avons reçu, nous l'avons déjà dit dans ce culte, pour notre part, la paix du Christ. Il s'est fait sacrifice pour nous. Il s'est fait temple pour nous. Il est celui par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu et le rencontrer librement. En lui, nos vérités ne nous condamnent plus devant Dieu. Quelle est donc notre responsabilité? Rester ce peuple joyeux et béni par le pardon de Dieu. Croyons-nous encore que ce seul témoignage rendu à la grâce de Dieu dans la profondeur de nos vies sera un signe assez fort pour que la multitude des nations nous envie ce privilège merveilleux. Quelle dynamique simple, puissante, quel projet pour nous tous ensemble devenir des chrétiens contagieux. Mais ça nous questionne, qu'est-ce que je vois dans ma vie? Que voyons-nous dans nos vies? Que voit-on de la puissance de l'Évangile? Qui aujourd'hui me tire le pantalon ou le manteau pour me dire « Hé Alain, hé Église de la rue de Sèvres, j'ai tellement envie de vivre ce que tu vis, ce que vous vivez avec Dieu. » Oui, avoir vos existences marquées par la grâce, Je n'en doute pas une seconde. Je sais que Dieu est au milieu de vous. Qui dans mon entourage a envie de dire sans hésiter une seconde, avec le même enthousiasme, la même spontanéité, verset 21, moi aussi j'irai. Ou encore verset 23, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Dans nos échanges de mails pour préparer ma venue, Mathieu m'a dit que la devise qui accompagnerait l'église de la rue de Sèvres en 2016 serait acte 18, versets 9 et 10. N'aie pas peur, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Comment ne pas entendre quelque chose aussi de ces mots du verset 21, presque une reformulation mot pour mot. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Comment les atteindre? Si l'on en croit Zacharie, pas besoin de déployer des stratégies d'évangélisation compliquées. Simplement veiller à demeurer des amoureux de la grâce, qui même en des heures sombres, peuvent donner le signe d'une joie profonde et réelle à ce monde, qui savent que leur paix ne dépend pas de l'actualité du 20h, mais qu'elle trouve sa source dans l'intéressable amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si nous, peuple de Dieu, nous savons demeurer dans la puissance de l'Évangile, croyons-le, nous n'aurons même pas besoin d'aller chercher ces nombreux, ils viendront d'eux-mêmes. Assoiffés de cette eau fraîche et vive que donne Jésus, affamés de ce vrai pain du ciel donné pour la vie du monde, affamés de ce repas que nous avons partagé ensemble tout à l'heure. Et nous l'avons lu, ce sont ces convertis eux-mêmes, ces nouveaux convertis qui, après avoir goûté ce pain de vie, partiront eux-mêmes d'une ville à l'autre pour dire les merveilles de Dieu et inviter les peuples et nations à partager ce banquet de la grâce. Alors au cœur de ces temps troublés que la France traverse et que vous, Parisiens, vivez tout particulièrement, quel merveilleux défi pour la rue de Sèvres et plus largement pour l'Église. Par l'authenticité de notre communion avec Dieu, prions que toutes les nations qui coexistent sur ce beau sol de France découvrent le Seigneur, jusqu'à ce qu'elles s'accrochent au pan de nos manteaux en disant « Nous voudrions aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Imaginez un peu, je ne connais pas précisément le nombre de personnes rassemblées dans notre culte ce matin, mais si chacun d'entre nous en avait 10 collés au pan de son vêtement, ça ferait quoi, 150 fois 10, 1500, 200 fois 10, 2000, je ne sais pas. 2000 personnes touchées par le Christ, qui eux-mêmes iront en chercher d'autres dans les villes alentour. Belle stratégie pour l'évangélisation, ça fait rêver, non? Alors en ces temps de Noël, que résonne encore aux oreilles de ce peuple parisien meurtri ce chant invraisemblable des anges qui jadis a retenti en accueillant le Fils de Dieu dans la nuit de Bethléem. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre. Paix parmi les humains en qui il prend plaisir. Oui, paix à ce monde troublé en Christ. Dieu prend plaisir en nous. Soyons épris de vérité et de paix. Soyons épris de lui.